Rosny est né, le dormeur. Ce serait une curieuse révélation pour les pauvres diables, fit le demi-milliardaire James Edward Raymond, si l'on pouvait dresser une statistique des circonstances qui ont mené les hommes les plus riches de notre temps à la fortune. Sans doute, on parvient rarement très haut si on n'est pas dépourvu d'énergie et d'ingéniosité. Mais j'ai connu des gens extraordinairement doués pour les affaires et d'une activité dévorante qui n'ont jamais pu réaliser une fortune, faute de la grosse chance ou des 3 ou 4 chances moyennes sans lesquelles on reste collé contre la muraille. Allez, ceux qui prétendent ne rien devoir qu'à leur travail ou à leur génie sont des menteurs ou des illusionnés. Le hasard qui fait prospérer un gland et périr un autre dans l'estomac d'un porc ne laisse pas d'avoir encore son influence sur le destin des hommes. Quant à moi, je compte au moins 3 bonnes chances dans ma vie. Grâce à la première, je devins plusieurs fois millionnaire. La seconde se hissa à la plateforme des 50 millions. Et la troisième m'a classé parmi les grands rois de l'industrie américaine. Mais c'est la première dont je garde le plus profond souvenir. C'est après tout la plus décisive. J'aime à y rêver quand les affaires me laissent une minute, d'autant plus qu'elles-mêmes me ramènent vers la jeunesse. Et rien, hélas, il n'y a pas de milliard qui vaille l'œil, le pied et le corps de la 20e année. Demandez plutôt au vieux Carnegie. Il a poussé à ce propos des gémissements qui ne dépareraient pas les œuvres de Jérémie. Donc j'avais 25 ans et je courais le monde en quête d'affaires. Oh, je n'avais pas de préférence. Je me sentais comme tant d'autres de mes compatriotes après toutes les entreprises, aptes à toutes les entreprises. Pour l'heure, je revenais d'un voyage en un petit pays puant où j'avais épuisé mes économies à faire du pétrole. Les sondages n'ayant pas réussi, je me retournais vers le Texas, la poche à peu près vide et n'ayant pas d'autres prophéties et propriété que mon cheval, un bon rifle un bobine de revolver et des munitions. Un sale moment de ma vie. Oui, un sale moment en vérité. Il faut dire que c'était la seconde fois que je dégringolais. 3 ans auparavant, j'avais déjà perdu toute mon épargne à chercher du cuivre, là où il n'y avait que des pierres. Je voyais l'avenir en noir, et la région que je traversais, marécageuse et sinistre, n'était pas faite pour me réconforter. Un matin d'octobre, par un temps pourri, sous un ciel bas où les nuages traînent comme du linge mal lavé, je trottais le long de la savane. Je me sentais plus mélancolique encore qu'à l'ordinaire, d'autant plus que mes vêtements étaient humides depuis la veille, ce qui est bien la chose la plus inconfortable que je connaisse. Vers midi, apercevant un bouquet d'arbres, d'érables, J'ai résolu de faire halte pour manger une boulette de pemmican et une briquette de biscuits. Et quand nous parvînmes près des arbres, mon cheval fit un écart. J'aperçus une jument qui paissait la savane et un homme étendu sur le sol. Après avoir décroché mon fusil, car ce sacré pays pullulait de pirates, j'arrêtai ma bête et je considérai l'individu. Il avait l'air de dormir, mais il pouvait aussi bien être mort. Pour éclaircir la situation, il fallait descendre de cheval, ce que je me décidai à faire. Eh bien, l'homme n'était pas mort. Toutefois, il respirait à peine et son cœur battait assez mollement. J'eus beau le secouer, grogner comme un porc-en-ours, hurler comme un loup, il demeura insensible. Dépourvu de la plus légère notion médicale, je ne pouvais naturellement rien faire. Je me bornai à lui mettre sous la tête sa couverture pliée en huit, et je mangeais mon pemmican et mon biscuit. Quand j'eus terminé ce maigre repas, l'homme n'avait pas bougé. Son souffle était toujours aussi faible. J'allumai le calumet du conseil, c'est-à-dire que je fumais des derniers cigares qui m'en restaient, et je me mis à réfléchir. Quoique je fusse impatient de revoir des endroits plus confortables que la prairie, je ne songeais pas un moment à abandonner le dormeur. Le territoire abondait en bêtes de proie qui ne se seraient pas gênées pour dîner d'un Yankee léthargique. D'ailleurs, le fait seul d'être exposé à l'air humide pouvait être une cause de mort. Oh, c'est agaçant, me dis-je, mais il faut que je reste. Je vais allumer du feu, faire sécher ma couverture, puis la sienne. Et s'il y passe tout de même, je n'aurai pas au moins de son départ sur la conscience. Je fis comme je l'avais résolu. De longues heures s'écoulèrent et le soir approcha sans que l'homme eût fait le moindre mouvement. Dire que j'étais inquiet serait de l'exagération. Mon existence était trop aventureuse pour que j'attachasse un prix considérable à la vie d'un homme et celui-ci ne payait pas de mine. Avec son nez en rostre, sa bouche de fauve, son menton pointu, il avait l'air d'un écumeur de savane. Je n'étais donc guère ému, mais je m'impatientais. Et j'ai souvent pensé depuis que la profession de garde-malade est une profession exécrable. Le crépuscule vint, puis la nuit. J'enveloppai l'homme avec soin et, recru de fatigue, je m'abandonnai au sommeil. Je dormais depuis plusieurs heures lorsqu'un hennissement me réveilla. Tout de suite, j'aperçus des bêtes qui rôdaient autour de nous. Je reconnus des coyotes, en nombre insuffisant pour m'inquiéter. Mais comme ils m'agaçaient cependant, je pris un tison et fis une charge à fond de train. Les maudites bêtes s'enfuirent dans les ténèbres. Et tandis que je revenais près du feu, une voix faible se fit entendre. « What's the matter ?»« Ah, il se passe, » répondis-je, « que je viens de chasser des coyotes qui énervaient nos chevaux. Mais en ce qui vous concerne, vous venez de vous éveiller d'un sommeil dont j'ai vainement cherché à vous faire sortir pendant toute une pauvre journée. » L'homme se redressa. À la lueur du feu, il me considéra de ses yeux sombres et qui louchaient un peu, puis murmura « Ah, vous êtes arrêté pour moi ?»« Vous pouvez le dire, old fellow. Sans vous, je serais dans les environs de Hudson. » L'homme parut pensif. Et à mesure qu'il s'éveillait, ses yeux luirent davantage. Et il finit par dire « Après tout, vous m'avez peut-être sauvé la vie ?»« Oh, c'est pas impossible, » répliquai-je. Il me regardait fixement et il semblait m'observer jusqu'au fond de l'âme. Et peu à peu, il me devenait sympathique. Je le sentais fruste, rude, presque sauvage, mais loyal et sans mesquinerie. Et il reprit. « Savez-vous quoi ? Je cherchais un compagnon sûr, quelqu'un avec qui je pourrais lutter contre les autres. Et pourquoi ce compagnon ne serait-il pas celui-là qui peut-être m'a sauvé la vie plutôt qu'un autre ? Je vais vous dire, j'ai découvert un placer. » Je ne pus m'empêcher de sourire, car les déceptions m'avaient rendu sceptique. Alors, lui, silencieusement, tira un sac de sa ceinture et d'un geste qui ne manquait pas de noblesse, me le tendit. Je l'ouvris après m'être rapproché du feu, et je ne pus retenir un cri. Le sac était plein de belles pépites d'or. L'homme tint parole, acheva Jacques-Édouard Wilhelm. Nous explorâmes ensemble le placer qu'il avait découvert. Et je rentrais, pour ma part, je retirais un bénéfice de plus de 100 000 $. Et voilà ma première grosse chance. Avouez que l'énergie et mon habileté n'y ont aucune part.